Nous avons le, comme on dit, le plaisir et l'honneur aujourd'hui de recevoir deux brillantes personnalités. D'abord, nous allons écouter Bruna Donatelli, qui est professeure de littérature française à l'Université Roma-Tré. Puis, nous écouterons Gesine Hindemith, qui est ici présente, heureusement, et de l'Université d'Erfurt. Alors, Bruna Donatelli, est professeur de littérature française à l'Université Roma-Tré, travaille sur la littérature française, sur Flaubert, bien sûr, mais plus largement sur la littérature du 19e-20e siècle, sur la culture visuelle et la littérature comparée. Donc elle est, sur Flaubert, l'auteur de deux monographies qui sont au centre Flaubert de l'ITEM auquel vous pouvez accéder sur rendez-vous. Flaubert ten luoghi e tempi di un dialogo, publié à Rome en 1998. Et puis, je traduis en français, « Les perles, le fil et le collier », c'est une citation de Flaubert, « Figure et lieu dans les œuvres de Flaubert », qui est parue en 2008 aussi à Rome. Et elle est l'éditeur, l'éditrice et la traductrice de la correspondance Flaubert-Sand, également publiée en 1990. Et elle prépare un livre sur... Alors, je te laisse le dire en italien,
c'est que je lis. Non, parce que je...
Paradigme de la modernité.
Si, paradigme de la modernité, littérature, art et sciences dans la France.
Ah non, mais ça en français, je pouvais le dire. D'accord, en italien, vas-y.
Paradigme de la modernité, littérature, art et sciences de la France du 19e siècle, il y a aussi un. Et c'est sur Flaubert.
Voilà, apparaître à Rome. Donc, tu nous annonceras la parution, on en fera la publicité au séminaire.
Hein. D'accord.
Voilà, et on l'achètera, bien évidemment. Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, tu vas nous faire bénéficier de l'exposé sur la question des couvertures dans quelques œuvres de Flaubert, et qui est une question importante pour, bien sûr, cette question qui nous retient. De la problématique de Flaubert et l'image. Donc, nous t'écoutons.
D'accord. D'accord. Alors, imaginez une galerie de portraits qui vous regarde. C'est la même chose pour les images de couverture. Et j'ai choisi, j'ai décidé de présenter ces images, les images de couverture concernant Madame Bovary et Salammbô. Au début, j'avais pensé focaliser mon intervention sur l'éducation sentimentale aussi, parce qu'il m'a semblé intéressant de comparer, d'un point de vue de choix éditorial, d'une part, les images de couverture de deux romans axés sur la modernité, dont les protagonistes sont notamment un homme et une femme, et d'autre part, celles de deux personnages féminins, Emma et Salammbô, appartenant à deux sphères temporelles et géographiques différentes, l'une icône de la modernité, l'autre emblème d'une antiquité magique et presque ancestrale. J'ai dû abandonner par la suite cette idée de répartition tripartite, la quantité du matériel à organiser ne le permettait pas, et j'ai décidé de sacrifier les couvertures de l'éducation sentimentale, parce qu'il me semblait que, vu de cette perspective, elle était les moins intéressantes dans tout l'ensemble. Je vais vous faire voir... Non. Ecco qua. Non. Come si fa andare qui? Non. Ah là, d'accord. Ça y est. Alors, une planche où il y a quelques couvertures, et vous voyez que, je l'ai un peu classée, et la plupart des images concernaient des images de la Révolution, surtout la première image à gauche, ou d'autres images similaires. D'autres présentent un couple bourgeois, normalement, du 19e siècle, d'autres encore, un personnage masculin, quelquefois au trait d'adolescent, et d'autres fois une jeune femme rêveuse. Le fait le plus intéressant à dire, c'est que les créateurs de couverture ont choisi de mettre au premier plan le portrait d'un personnage féminin au lieu de celui du personnage masculin, du protagoniste masculin. Et le titre, d'autre part, permet cet échange et cette ambiguïté. Et parmi cela, il serait intéressant, il aurait été intéressant d'analyser l'image, cette image qui nous offre une double représentation d'un visage féminin, l'un pris dans sa frontalité, l'autre de profil, misant sur la tension de deux états d'âme et suscitant ainsi une réaction de curiosité chez le lecteur. S'agit-il de la même femme, comme la composition le suggère, ou de deux femmes différentes? S'agit-il d'une éducation sentimentale au féminin? Là, c'est la curiosité qui donne au lecteur la curiosité de lire ce livre. La réponse sera différente selon le lecteur, c'est un lecteur avisé ou non, ou s'il ne connaît pas le roman de Flaubert, etc. Mais écartant ce groupe d'images, j'ai décidé de focaliser mon discours, comme je le disais, sur les autres deux œuvres, en privilégiant en particulier Salammbô, en hommage aussi à l'anniversaire de ses 150 ans. Et j'ai classé le matériel à partir d'un critère selon le type d'édition, c'est-à-dire édition illustrée, d'une part édition illustrée, d'autre part édition non illustrée, et à l'intérieur de ce type d'édition, images déjà existantes dans le patrimoine artistique et d'autres images qui sont créées ex nihilo, c'est-à-dire spécifiquement pour le livre à publier. Mais avant d'entrer dans cette parade visuelle, il faut se demander quelle est la fonction et le statut d'une image de couverture. En quelques mots, bien sûr. C'est un référent culturel très complexe où entrent en jeu plusieurs facteurs esthétiques, commerciaux, cognitifs. Elle reflète la promesse véhiculée par le livre et participe à l'équilibre marchand qui va déclencher l'acte d'achat. C'est le lien primaire entre le livre et le lecteur. Elle appelle son regard et cherche son attention en participant avec lui à l'expérience de la lecture. C'est un code visuel grâce auquel on peut enquêter des contenus, mais l'image de couverture révèle aussi des indices précieux sur la réception d'un personnage littéraire et sa survivance dans un contexte socioculturel différent que celui qui l'a créé. Et c'est sur ce versant-ci que je voudrais orienter mon analyse. L'image de couverture s'impose à la fin des années 20 du XXe siècle en tant qu'élément décoratif ou esthétique, en devenant par la suite, et surtout à partir de la fin des années 70 du XXe siècle, un code visuel au statut conceptuel qui fait corps avec le texte, jusqu'à arriver aux couvertures des e-books qui ont très rapidement évolué pour trouver un langage spécifique et donner plus de personnalité au livre dématérialisé. Alors, je ne traite pas ce type d'édition. Au XIXe siècle, en revanche, même la plupart des couvertures des éditions illustrées étaient sans images, bien que très recherchées et enrichies d'éléments décoratifs importants, reliurant marocain, demi-marocain, dos gravé au doré avec des incisions graphiques sur les deux pans. C'est une pratique qui se prolonge jusqu'aux premières décennies du siècle suivant, la couverture ayant encore cette connotation de coffret élégant, née pour protéger la préciosité et la fragilité des feuilles et des dessins du dedans. Bien qu'à l'intérieur, nombre d'artistes et déjà révolutionné l'idée même d'édition illustrée en conférant à l'image et au texte une valeur conjointe permettant ainsi la naissance d'une œuvre seconde avec les mêmes pouvoirs d'évocation que l'œuvre originale. Un exemple parmi tous, Salammbô, interprété par François-Louis Schmid, édité en 1923, a souligné que c'est le seul livre de luxe à figurer au Musée d'art moderne de New York. Pour Schmid, artiste proéminent de l'art déco, peintre, graveur et relieur aussi, le livre est un univers architectonique total où les signes iconiques, dans leur complexité, ont du sens seulement s'ils sont fonctionnels au tout. Les six compositions dont se compose le volume, ici j'en ai mis trois seulement, forment en fait une sorte de partition musicale dont le frontispice, le voile de Tani, vous le voyez là, le voile de Tani, une sorte de partition musicale dont le frontispice fait entendre l'accord fondamental entre texte et image. Et tout comme le roman de Flaubert tisse sa texture à partir du voile, de la même façon, l'œuvre de Schmid déploie d'emblée toutes les harmonies de lignes, de couleurs que reprendront chacune à leur manière les autres cinq compositions. Puissant, le dessin du Python, l'une des images fondantes de l'art déco, qui, dans sa magistrale verticalité, a la force, comme l'a souligné Mauro Nasti, d'une ancienne icône païenne. Le livre se trouve à la bibliothèque de Rouen, la bibliothèque municipale. Mais la fonction de la couverture ne pouvait être reléguée à jamais au statut de coffret, puisqu'on s'est aperçu bientôt que le livre est dans toutes ses composantes une expérience cognitive existentielle, et la couverture aussi devait faire partie de ce processus. En fait, déjà vers la fin du XIXe siècle, quelques artistes, maîtres dans l'art de la reliure, se sont mesurés à inciser avec des images le cuir des couvertures. Pour ce qui concerne Salammbô, la première reliure artistique est celle réalisée par Victor Prouvé en 1893. Victor Prouvé, c'est l'un des maîtres de l'art nouveau. Peintre et décorateur de l'école de Nancy et véritable renovateur dans cet art, il s'était déjà mesuré avant cette réalisation plusieurs fois avec le personnage de Salammbô en réalisant deux huiles sur toile en 1881 et en 1884 et un bas-relief en 1889. Cette œuvre, cette reliure, est l'aboutissement de ses recherches sur ce sujet. Réalisée en collaboration avec Camille Martin et René Wine, c'est un chef-d'œuvre dans son genre. Le décor est constitué d'un seul bloc et c'est une mosaïque de cuir incisé et doré cerné par des traits de pyrogravure. Le lien entre les deux pans de la couverture est assuré par le voile sacré qui en recouvre les trois quarts. Hors du voile, c'est celui qui est en bas, le voile. Hors du voile surgit la séduisante et érotique Salammbô, représentée selon le goût artistique dominant de l'époque avec le serpent qui l'entoure, mais dans une posture très dynamique, comme si elle affleurait de l'intérieur du livre, entourée de son serpent, au symbolisme notamment ambivalent, mais que dans ce contexte, on est peut-être autorisé à lire comme un véritable totem qui protège Salammbô de la force agressive du soleil, celui-ci occupant l'autre pan de la couverture. C'est Moloch qui est représenté sous la forme d'un dieu bélier au caractère bipolaire, fécondateur et destructeur en même temps. Il est en chaîne et trône majestueux et immobile comme monolithe sur des lampes de feu. Au centre, sur le dos, en transparence, vous le voyez, peut-être, la figure de la déesse Tani, droite, c'est en transparence, c'est tout le long du dos, hein, droite comme une statuette sur un piédestal. En bas, sur le pan de gauche, une scène d'accouplement sacré, celle d'un lion, symbole de la force obscure et inconnue, et d'une femme. Dans les Aïns de Prouvé est donc inscrit le viol qui marque le sort de Salammbô. Pleine de vigueur et de finesse, cette splendide relieur traduit en termes plastiques ce que Victor Prouvé soutenait lui-même à propos de l'œuvre d'art, traduire la vie et l'âme latente sous l'enveloppe. Deux autres couvertures, parmi les nombreuses éditions illustrées de Salammbô, méritent à être mentionnées. C'est l'américain illustré en 1927 par Blaine, qui présente une image qui s'offre en guise de sceau, vous la voyez en haut, annonçant l'univers totémique et mystérieux du dedans et en cachant en même temps l'érotisme raffiné de l'interprétation iconique. L'autre est réalisé par Suzanne Raphaël Lagnon, qui signe l'édition Cyrale de 1929. C'est une image à plusieurs arrière-plans décalés qui présente, hein, vous l'aviez en haut, qui présente une double figure. L'une au premier plan représentant Salammbô à la posture royale, mi-humaine, mi-divine, plus petite que l'autre image placée derrière elle, dessinée également aux autres images du même plan, comme une ombre qui la domine. Il s'agit de Tani, dont l'effigie se retrouve représentée à l'intérieur du livre, vous la voyez au milieu, derrière le voile sacré. Mais elle a des traits aussi du phénix, l'oiseau légendaire rattaché au culte du soleil qui renaît de ses cendres. C'est la condensation de figures différentes. Il est vrai que Tani est représentée aussi et dans le chapitre explicatif, Flaubert le disait avec des grands ailes, mais je pense que l'artiste ne le savait pas. Je pense plutôt qu'il voulait le mettre superposé de figures, hein, là-dedans. Une ombre encore au contour noir, au contour moyen, est visible entre Salammbô et Tani, dont on reconnaît une main qui tient un œuf, symbole de fertilité, faisant partie de la mythologie lunaire. Des langues de feu et une atmosphère flamboyante enveloppent dans une seule scène tant Salammbô que les autres figures. Projection iconique de ces obsessions. Différents sorts aura Madame Bovary. Il faudra attendre les années 20 du XXe siècle, pour que la protagoniste suscite un véritable intérêt de la part d'un artiste. Le sujet à représenter, le prototype d'une femme adultère et suicide, comme on en trouvait souvent dans les chroniques des journaux, n'avait pour les artistes contemporains de Flaubert rien d'attirant, comme l'aura, par revanche, Salammbô. Et c'est seulement grâce à l'étude de Gaultier qu'on verra en elle, par la suite, des aspects nouveaux, voire sa nature rêveuse et poreuse aux contaminations d'autrui. L'une des rares interprétations picturales de Madame Bovary est celle de Louis Icard, qui réalise en 1929 une Emma Liberty, élégante, insaisissable dans sa posture languide, presque évanescente, qui se propage jusqu'à sa robe impalpable et ses couleurs délicates. Il s'agit d'une eau-forte qui condense en un seul décor plusieurs scènes du roman. Emma Salvrette, amie fidèle de ses journées passées à Tate, la robe élégante qu'elle porte à l'occasion du bal de l'anniversaire et le bouquet de violettes que Léon lui offre lors de leur rendez-vous à la cathédrale de Rouen. Au cœur de l'ensemble, le motif de la fenêtre qui est central notamment dans le texte flaubertien. Jamais, si je ne me trompe pas, la Bovary de Louis Carr a été utilisée comme image de couverture dans quelques éditions non illustrées du roman, et le motif est à rechercher peut-être dans le fait qu'elle ne permet pas d'identification immédiate, c'est-à-dire que le personnage n'est pas placé dans le contexte culturel qu'il a créé au XIXe siècle, et peut-être aussi parce que Louis Carr n'était pas tellement connu aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un artiste qui n'a pas la notoriété d'autres. Mais cette image aurait pu bien représenter, être une vitrine attirante pour le roman, en se donnant comme synthèse de ce contenu. Une des fonctions de couverture est de se donner comme image synthèse du contenu. Avant Louis Carr, un seul autre artiste avait été fasciné par Emma Bovary, Aubrey Beardsley, le plus célèbre illustrateur anglais fin de siècle. Talent précoce, à l'âge de 15 ans, en 1887, il avait déjà illustré ses livres préférés, Madame Bovary, Manon Lescaut. Mais sa Bovary, et celle qui est en haut, n'a pas encore les traits raffinés et ironiques de ses œuvres futures, notamment ceux de sa Salomé, de ses Salomé, où le comique et le grotesque se fondent à la sinuosité des lignes et à la sensualité satanique des silhouettes. Et vous les voyez à droite. Comme l'œuvre précédente, même pas la Bovary de Beardsley n'a suscité l'intérêt des éditeurs du roman, et pour cause, parce que l'artiste a voulu la représenter avec une certaine ironie, je pense, comme une jeune femme quelconque, sans aucun charme et pouvoir de séduction, tant dans sa posture que pour la façon dont elle est habillée. Le véritable intérêt pour Madame Bovary naît lorsqu'on propose à des artistes d'illustrer le roman pour des éditions destinées aux collectionneurs. Pendant une vingtaine d'années, dès la fin des années 20 jusqu'à la fin des années 40, on publie en effet d'excellentes éditions de ce roman avec des tirages spéciaux et numérotés qui présentent des œuvres picturales et graphiques en original, accompagnées parfois de différents états de progression de l'œuvre, études préparatoires, ébauches de dessins noir et blanc, etc. Il s'agit de livres précieux, même pour la qualité des matériaux. L'édition Porson, par exemple, que vous avez ici, avec des eaux-fortes originales de Michel Siri, exemplaire sous Valin, paru en 1947. C'est une œuvre en 5 volumes, 2 pour le texte réunis dans un boîtier, chacun ayant sur le devant de la couverture en maroquin blanc l'une des 115 eaux-fortes de l'intérieur, et les autres 3 volumes réunis eux aussi dans un boîtier de la même couleur contenant une triple suite de ces 115 eaux-fortes. Dès les images de couverture, on se rend compte, il s'agit de feuilles repliées, hein, on se rend compte de l'intention de l'artiste de vouloir réaliser une œuvre croisée où les traits graphiques des images en noir et blanc forment un continuum avec le texte, le noir de l'encre et le blanc de la surface du papier. Et ce n'est pas au hasard que tant les couvertures que le boîtier soient en maroquin blanc. Même stratégie pour les autres images qui occupent un espace qui varie selon la scène. Par exemple, celle que vous avez au milieu en bas, C'est placé juste au milieu d'une page entre un dialogue et une description, et se présente comme traduit, hein, qui se traduit par un hiatus de l'écriture qui propose au niveau visuel un flashback, le regard de Rodolphe qui vient de poser sur Emma en la contemplant derrière elle dans toute sa séduction, mais le dialogue, le texte ne se réfère pas à cette scène du roman, cette scène illustrée. Il y a encore des autres images très intéressantes en pleine page, par exemple celle du fiacre et, de la rencontre des deux amants à l'hôtel. Et là, par exemple, il est intéressant parce qu'il met seulement les décors sans la présence des protagonistes. Et ces deux images semblent vouloir iconiser l'indicible du texte. Hein. Je vous ai fait cet exemple pour voir comment le texte et les images et l'appareil iconique se répondent. Bâti sur une dimension narrative opposée, l'image de couverture d'une édition anglaise du roman, illustrée par John Austin, qui nous présente une Emma fin de siècle, habillée à l'anglaise, au drapé plus long, solidement étendue sur un divan. Bien que le dessin soit réalisé comme s'il s'agissait d'une silhouette, le plein de la couleur, et en particulier la couleur qu'il a choisie, que Austin a choisie, c'est-à-dire l'or, donne l'idée d'un bloc du marque. Sur le dos, des motifs floraux qui seront repris dans les pans intérieurs de la couverture. Ouvrant le livre, à gauche du frontispice, un portrait à figure entière d'Emma avec sa longue robe à la taille remontée, sur les seins, un grand chapeau et la levrette qu'elle promène. Si vous comparez les deux images, celle d'Austin et celle de Ricard, vous voyez quelle différence y a-t-il entre les deux. Préminente donc pour ce type d'édition, où l'auteur de l'image de couverture va coïncider avec celui des illustrations du dedans, et la lecture conjointe de l'une avec les autres, les images de couverture ne jouant pas de rôle captivant pour l'achat du livre, comme ce sera le cas des éditions illustrées, l'utilisateur du produit est d'habitude un collectionneur, c'est le cas des éditions d'art par exemple, et la fonction principale de l'image de couverture est celle de donner quelques anticipations sur la qualité artistique de l'interprétation iconique et quelques informations sur le style et le surplus du signifié symbolique que l'artiste a donné au modèle originaire. Le problème se pose différemment pour les éditions, et on passe à l'autre type d'édition, différemment pour les éditions non illustrées, qui constituent d'ailleurs la plupart du marché éditorial et presque le seul produit de nos jours. Ici, l'élément figuratif est représenté par la seule image de couverture qui se veut comme porte qui permet au lecteur la traversée du livre, participant elle-même à l'expérience de la lecture. Bien de couverture rendent aujourd'hui évident ce mécanisme en insérant par exemple l'image dans un carré comme si elle sortait de l'intérieur du livre, même jusqu'à en mimer l'acte d'ouverture. À mesure que le procédé de la relieur devenait trop cher pour un marché en expansion, les éditeurs ont commencé à miser sur l'enrichissement visuel de leur couverture et leur effet d'attrait de séduction. L'illustration de couverture place en fait le lecteur au centre d'une sensation culturelle dont l'intensité varie selon l'objectif poursuivi. On peut utiliser une image iconique existante, je vous dis le type d'utilisation, ancrée dans l'inconscient collectif qui permet une identification immédiate, ou à l'inverse, créer une illustration ex nihilo pour plaire à la cible. Lisez. Commençons par le premier groupe d'images, celles puisées dans un patrimoine artistique existant. L'appartenance des deux personnages flaubertiens à deux sphères divergentes de l'imaginaire, l'une mythique, l'autre vraisemblablement réaliste, et le contexte historique, culturel où se déroule l'intrigue a suggéré aux responsables des couvertures des choix de fonds différents, même si, comme on le verra, quelques traits communs de la personnalité des deux héroïnes, leur nature instable et rêveuse, dessinent des analogies dans le processus de transposition iconique lorsqu'on veut les remodeler selon les canons prédominants du contexte culturel qui les accueille. Pour Emma Bovary, le choix tombe d'habitude sur des peintures célèbres du XIXe siècle. C'est un choix qui va porter une charge supplémentaire au livre parce que le lecteur l'associe déjà à une émotion, à des connaissances. Il s'agit presque toujours de portraits qui jouent leur niveau de représentation plutôt sur le plan de l'adhérence à certains états d'âme d'Emma que sur celui de la ressemblance physique et qui retiennent de l'héroïne flaubertienne en général la puissante valeur symbolique. Ils ont été sélectionnés le plus souvent parmi les grandes œuvres picturales françaises appartenant tant à l'école réaliste qu'à l'école impressionniste, en privilégiant par rapport à la première, les œuvres de peintres portraitistes qui ont su le mieux conjuguer la vigueur et la véridicité des traits avec une image, avec un usage particulier de la lumière et de sa capacité d'adoucir les contours en les rendant presque évanescents. Courbet, Corot, Durand, etc. Et par rapport à la deuxième, l'étoile de Manet, Monet, Renoir, qui inversement ont préféré un certain affaissement de visage dont les formes se dessinent grâce à la multiplicité des tons et à l'élégance des teintes largement plaquées. Ce noyau d'image, qui est le plus consistant, se fonde sur un élément thématique qui les rassemble, une représentation romantique d'Emma Bovary. Et sur des motifs récurrents et différemment utilisés. L'âge du sujet, sa posture, l'orientation du regard, la présence des accessoires, la coupe de vêtements, déclinant ainsi des choix qui permettent de déchiffrer le message lancé au lecteur. D'autres éditeurs abandonnent au contraire les canons de la représentation réaliste est mise sur le vague poétique d'Emma qui ne se laisse plus percevoir dans sa réalité effective, comme c'est le cas de l'image de Klimt et de Ebuter. Ils choisissent leur couverture en privilégiant du premier le portrait d'une jeune femme dont la figure aux yeux verts sortant d'un cou étiré et d'un corps qui se délabre dans le mouvement courbuligne de sa robe semble vouloir se fondre dans le vert de l'arrière-plan. Hein? Là, le vert, c'est plus noir, mais enfin... L'autre, c'est l'autoportrait de Jean Ebuter, qui c'est la femme de Modigliani, où la physionomie du visage se dessine en même temps et se dessous dans les rythmes de composition de l'allongement de la tête et de l'effacement de ses traits. Un différent choix s'impose pour Salambeau. Cette héroïne aux traits mythiques et exotiques à représenter, comme on l'a vu, on l'a déjà dit, pour les artistes contemporains de Flaubert et pour le goût décadent de l'époque, un modèle de référence important. Il suffit de penser, par exemple, à Gustave Moreau, qui s'inspire pour le costume de sa Salambeau, à celui de sa Salomé, à celui de Salambeau. En fait, dès l'apparition du roman carthaginois de Flaubert, bien d'artistes, peintres, sculpteurs et même des compositeurs ont été séduits par la composante érotique, exotique de l'héroïne qui satisfait leur goût largement voyeuriste d'occidentaux rêvant de l'Orient et de la femme orientale. Beaucoup de couvertures des éditions d'aujourd'hui proposent à nouveau cette représentation de la femme comme objet de désir en utilisant des œuvres picturales réalisées à l'époque exprès pour Salambo ou bien en adaptant d'autres qui proposent le même prototype de femme séductrice et tentatrice. Vous voyez en bas la Salomé de Stuck et la Salomé et l'autre, non, encore à droite, Moreau et Anno, le roi Candole de Lydie montrant la beauté de sa femme. Ce sont des œuvres puises dans d'autres domaines artistiques. Échappe à cette interprétation trop restrictive et stéréotypée du personnage et son statut d'objet sexuel, même s'il s'agit d'une représentation non exempte de son pouvoir de séduction sur le lecteur, les œuvres de Gaston Bussière et d'Alphonse Marie Mourra. Gaston Bussière, qui illustrera en 1921 le roman carthaginois de Flaubert, avait peint en 1907 une Salambo aux traits royaux, enveloppée par la splendeur et la préciosité de ses vêtements et de ses bijoux. Le regard détaché, mais perçant, qui met en garde sur l'intouchabilité de sa personne. Les éditeurs qui ont choisi cette œuvre comme image enseigne de leur édition ont certes misé sur l'attrait aimant de ce regard qui va rencontrer celui de son lecteur et sur l'habillement, le vêtement de l'héroïne. À souligner la présentation à trois quarts du portrait qui met au premier plan l'une des deux épaules découvertes. L'autre œuvre est daté de Alphonse Mourra, est daté de 1896. C'est une lithographie qu'il a réalisée pour l'Europe moderne en 1896, en privilégiant un autre aspect important de la personnalité de cette Vierge consacrée à Tanny, sa nature extatique et presque inhumaine, mais non exempte de fascination de charme. Il faut dire que Mourra entretenait des liens avec la théosophie. C'est pour cela qu'il avait des intérêts pour cet aspect pour Salambo. En fait, la posture hiératique, presque immaculée de son corps, du corps de Salambo, du personnage, qui s'offre les bras et le regard orientés vers le ciel, est relativisée par la sinuosité de son voile qui se dénoue derrière sa nuque en deux parties, l'une frôlant son hanche, l'autre glissant jusqu'à terre dans un mouvement qui semble enlacer le corps de Mato. Derrière elle, le voile sacré qui se fusionne et s'alimbe avec lui, avec la couleur des fleurs et l'abondance des coupes où s'élèvent des fils parfumés. Ce sont des offrandes de Mato qui, dans une posture qui le voit repli sur soi-même, déclare à Salambo son amour mélancolique au son de son art. Image synthèse du tissu narratif, elle souligne en effet la double atmosphère sacrée et amoureuse du roman avec la présence conjointe des deux protagonistes. Elle a été utilisée comme image de couverture dans beaucoup d'éditions, bien d'éditions du roman, américaine et espagnole surtout. Misant encore sur la nature extatique de l'héroïne carthaginoise, d'autres éditeurs choisissent comme porte sur le roman des images qui rendent visible la posture de Salambo dans ses longues adorations à l'astre lunaire. parfois créés spécifiquement pour le roman, comme, mais pas pour cette édition, comme c'est le cas de cette composition de Rochegrosse à gauche, qui avait illustré Salammbô en 1900, alors qu'il y en a d'autres repérés dans les œuvres les plus diverses, par exemple les Femmes d'Anfissa de Lawrence Alma-Tadema. Puis, au contraire, dans le domaine de l'archéologie, des éditeurs qui privilégient une représentation historique du personnage à partir des statues ou des bas-reliefs, permettant au lecteur un premier coup d'œil de situer historiquement le livre. Mais le peu d'impact visible sur celui-ci a poussé les éditeurs par la suite à remplacer ces images par d'autres, par exemple avec la représentation des seuls sites archéologiques dont l'effet est celui de plonger le lecteur dans un monde lointain, perdu, mystérieux, des espaces à remplir, des empreintes. Là, c'est le Salammbô édité à droite par Gisèle. Ne tenant pas compte du contexte culturel historique originaire, mais misant sur l'atmosphère mythique et surnaturelle, en même temps monstrueuse de roman, d'autres créateurs de couverture créent de nouvelles Salammbô où la ressemblance avec le personnage originaire est jouée exclusivement sur l'adhérence à certains états d'âme de l'héroïne, en puisant dans d'autres domaines de la mythologie. Il s'agit des Bacchantes de Léon Bakst et de la fée Morgana d'Anthony Frederick August Sand, figure légendaire emblématique, mi-humaine, mi-déesse, qui partage avec la princesse carthaginoise la même nature enchanteresse, séductrice et dangereuse qui les pousse à assassiner tout ce qui s'interpose dans leur projet. Parfois, il arrive que tant Emma que Salammbô soient remodelés selon les canons prédominants du contexte qui les accueille. La personnalité floue, instable et rêveuse des deux héroïnes, et c'est là le point de contact fort entre elles, sont des traits universels qu'on peut retrouver dans des femmes d'aujourd'hui, et tous peuvent s'y reconnaître. Les traits physiques d'Emma et de Salammbô et leur appartenance à une génération donnée peuvent donc être livrés à des déformations considérables, ceux d'une jeune femme orientale par exemple, comme c'est le cas d'une édition japonaise de Madame Bovary, ou bien transmettre la vision que la culture arabe a de l'Europe, dont le contexte culturel et celui de l'auteur et non celui qui a engendré le roman, c'est-à-dire la colonie phénicienne carthaginoise, comme on peut le constater de cette édition de Salammbô traduite par le poète Boulos Ghanem dans les années 80, avant que le modèle culturel intégriste devint dominant. C'est une iconographie typique des éditions d'arabe de l'époque concernant l'Occident, où prévalaient des modèles européens, la femme dévoilée, décolletée, etc. Significative, en ce sens, la présence du voile derrière le portrait de la nouvelle Salammbô, qui voudrait évoquer le voile sacré, mais qui, en réalité, fait partie de son vêtement, de son habillement. C'est la même couleur que sa robe. La Salammbô de Flaubert, lorsqu'on lui impose d'aller reprendre le voile sacré, se cache le visage dans ses voiles, et encore lorsqu'elle se présente à Mato, a le visage couvert d'un voile jaune à fleurs noires, et toujours dans la tente de Mato, en réclamant le voile sacré, et elle arrache les voiles de sa tête. Maintenant, comme le temps presse, il faut que je passe au dernier groupe d'images, c'est qui s'appuie de nouveau sur une interprétation faite sur mesure par rapport au livre. En fait, si les images qu'on vient de commenter se rejoignent dans une représentation du personnage qui prend les contours virtuels grâce à la médiation interprétative des responsables des choix iconographiques, celles qu'on va présenter jouent leur point de force sur l'impact émotif que l'artiste éprouve en entrant en contact avec le modèle originaire. Pour Madame Bovary, j'en ai choisi deux parmi les nombreuses couvertures réalisées. La première est de Bernard Kriegstein, qui réalise la couverture de Madame Bovary pour l'édition d'Elle, et l'autre de Manolo Blahnik, qui réalise pour la Penguin la couverture de l'édition 2006. Pour ce qui concerne Bernard Kriegstein, il s'agit d'une M assez décolletée, beaucoup fardée, tout en chair, qui, les yeux fermés, semble voir sauvegarder ses secrets les plus intimes et les soustraire au regard indiscret des autres. Le miroir qu'elle appuie sur son épaule ne reflétant rien d'autre que de la couleur est en ce sens éloquent. La couleur est en effet le véritable protagoniste de ce dessin, à l'apparence un peu éclatant, mais qui joue son sens le plus profond sur la vivacité et la force de la couleur même. C'est une explosion chromatique qui évoque la traversée de couleurs du roman, le franchissement des mâts de la réalité, le bleu de ses rêves, de sa tristesse, le rouge de la passion, de la peur et de la folie, le vert de la tromperie, de l'amour adultère et de la déception, le jaune et l'orange de la lumière joyeuse, le noir, encre de la mort. Atmosphère que l'artiste interprète avec une grande audace. À l'architecture solide des couleurs de cette œuvre s'oppose celle bien plus éphémère de Manolo Blahnik, qui illustrait l'une des plus récentes rééditions de Madame Bovary de la Penguin. Il s'agit d'une édition conçue pour la célébration des 60 ans de la publication des publications de la maison d'édition, destinée à un public de collectionneurs attentifs à l'exclusivité du produit et à sa qualité artistique et à l'originalité, bien sûr, de l'interprétation. Célèbre styliste espagnol de chaussures, Manolo Blahnik mise sur la frénésie compulsive d'Emma, qui change sans cesse de vêtements, c'est lui qui le dit, hein, et en achète nouveau. Il dessine une double image de couverture qui montre sur le bord interne de la première deux mains ouvertes sur le voyano, sur un corps de femme que l'on voit à travers la transparence captivante d'une robe de voile bleu mauve. Un tout petit slip et la présence d'accessoires rendent encore plus troublante cette beauté plastique, d'où la figure est coupée. En regardant le livre ouvert sur les deux pans, on comprend que ses mains appartiennent à un homme sortant de rideau, en train de saisir l'une de ses fantaisies corporelles. Pour Salambo, là c'est le domaine plutôt américain anglophone, pour Salambo j'ai choisi des couvertures, je ne les présente pas toutes, hein, c'est seulement deux, qui proviennent de l'Argentine, le Brésil, l'Amérique et l'Espagne. Il mériterait une analyse à part la couverture que vous trouvez en bas, parce qu'elle se présente elle aussi comme image synthèse, en bas à droite. Hein. La posture Salambo, son attrait érotique et le gong qui, c'est comme un moment de tension de ce qui va arriver, l'heure qui arrive. Hein, et aussi cette posture qui est érotique mais aussi guerrière et le voile derrière. Hein. Mais je m'arrête sur deux images seulement. La première, c'est un anneau à droite. C'est une image Je n'ai pas réussi à savoir le nom de l'illustrateur. Il n'est pas facile de trouver tous ceux qui ont signé les couvertures. Et elle est dessinée sur deux pans décalés qui représentent pour deux fois le même portrait de Salammbô pris dans sa frontalité. C'est une image d'une édition, l'illustrateur c'est brésilien, c'est une édition brésilienne de 2005. Cette image en évoque une autre, dont l'interprétation mise, on l'a déjà vue, sur le même regard persan, celle de Bussière, bien qu'elle joue différemment leur impact visif sur le lecteur, l'une sur le dédoublement du défi, l'autre sur l'élégance et l'espacement. Vous voyez la même coiffure qu'ont les deux œuvres. Même la couverture que vous avez là, en bas à gauche, réalisée par Miguel Luis Mateica, peintre illustrateur argentin, en rappelle une autre, celle d'Almery Lobelrich, qui illustre avec 5 compositions l'édition Romaldi de 1935. On pourrait même se hasarder à soutenir que l'artiste argentin ait eu comme modèle cette image et non le texte flaubertien, en la modernisant dans ses lignes essentielles, selon des canons prédominants de du contexte culturel de son pays. Le barbarmato, qui est un Libyen et pas un noir, est représenté ici comme un noir, dont la figure dépasse celle de sa petite femme nue aux cheveux rouges appuyés sur sa tête et sur son cou, projection de ses désirs obsessifs, le désir de la posséder. La couleur rouge, couleur de la passion ou du sang, domine la scène et fait de collant entre les deux personnages. Tandis que dans l'interprétation de Lobelrich, la sinuosité du corps de Salammbô et son érotisme dominent sur l'ensemble. Ces deux dernières images, groupe d'images, closent cette galerie de portraits dont le montage aurait pu évidemment suivre une autre direction. C'est un parcours qui s'est dessiné selon les trois lignes directrices que je vous ai indiquées au départ, mais la grande quantité du matériel repéré aurait pu bien suggérer d'autres lectures et d'autres impacts visuels. Il me semble toutefois significatif que toutes ces différentes interprétations iconiques que je viens de vous illustrer aient été possibles grâce à la malléabilité de ces deux personnages et littéraires et à leur caractère fuyant insaisissable qui laisse ouvert au lecteur la possibilité de se créer lui-même son personnage. D'autre part, c'était Flaubert lui-même qui soutenait avec force une femme écrite fait rêver à mille femmes. Merci. Je vais passer beaucoup mon temps.
Merci beaucoup pour cet exposé très riche et ce magnifique panorama d'images qui illustre ce que tu soulignais, c'est-à-dire à la fois la diversité d'interprétations en relation avec les époques, mais aussi avec les espaces géographiques. Et puis, il faudrait peut-être souligner aussi la différence entre les éditions de poche qui naissent à partir des années 60 et qui s'adressent à un public beaucoup plus large, et puis ce que tu soulignais, édition de collectionneur. Donc, on va tout de suite donner la parole à la salle. Moi, j'ai des remarques à faire, mais j'ai des questions à te poser. Et je vais peut-être laisser déjà.
Le choix d'un tableau d'Indre pour une couverture de Madame Bovary. Tu as présenté en bas à droite cette jeune femme blanche avec la robe.
Ah, Mika ? Ah, ouais. Il faut, il y a. Alors, voilà. Là encore.
Non, c'est bien passé.
C'est passé ? C'est passé. Ah non, là ! Peut-être non. Encore ? Avant ? Encore ?
Oui.
Là, c'est ça, là.
Voilà. Tout en bas, à droite.
Ah oui, tout en bas à droite.
Ils n'en ont pas le balai à côté.
Non, attends.
Ah, oui, c'est quand même très étonnant comme choix.
Ah, pour une édition.
Pour Emma Bovary.
Ah oui. Mais là, c'est
pas. On comprend les autres choix, mais celui-là.
Oui, parce que je pense que c'est plutôt le disons, l'éditeur, je pense, a choisi de puiser dans le domaine des peintres du 19e siècle. Même si, hein, c'est plutôt réaliste que, non? C'est-à-dire que peut-être, je pense, là, cette robe qui, ce voile qui tombe, je pense. Hein. Je ne connais pas tellement le domaine bulgare. Je pense que c'est une édition bulgare. Alors, on devrait voir quel est l'impact visuel qu'il a voulu. Hein, c'est là le difficile. Hein. Ce n'est pas facile de dire pourquoi un éditeur. Je ne pense pas que ça pourra
ça doit signifier une dame, une jeune femme du 19e.
Du 19e en général, mais oui, mais elle a raison parce que oui, c'est délicat. Il faut reconnaître l'éditeur, quelle était l'intention de l'éditeur et à qui s'adresse. Hein, c'est toujours ce que. Alors, je pense que, mais je connais pas tellement ce domaine que peut-être ce public. Pense plutôt à quelque chose de réaliste, hein,
oui,
une personne réaliste, c'est-à-dire
ça signifie le passé.
Oui, le passé, oui, bien sûr.
Quelle est la date, est-ce qu'on l'a de,
C'est
années 60, années 60, années 80.
Je suis pas sûre, 80, je suis pas sûre, hein, je suis pas sûre. Hein.
D'avoir la date, savoir parce que.
Je l'ai publié sur Flaubert la peinture, mais maintenant je n'ai pas ici.
D'accord.
Non, je les avais. Je voulais la porter, mais j'ai l'oublié. Parce que j'ai plus. Cette image, ce plan se trouve sur un article que j'ai publié, Flaubert la peinture, édité par Gisèle Sessanger, le numéro 7, je crois, de la série Flaubert. Et là, vous trouverez toutes les références. Oui. Oui, je pense les années 80, hein, je pense. Oui.
J'étais frappée pour les couvertures de Salambeau. Alors, j'étais vraiment admirative des couvertures de François-Louis Schmitt et puis de Victor Couvet. Je trouvais que c'était pour moi, ce sont les plus belles. Et j'étais frappée de la différence d'interprétation. C'est-à-dire qu'on a ces deux couvertures qui d'emblée placent le mythe au centre du roman. Voilà.
Oui. Ah oui, là,
celle-ci, et puis l'autre.
Oui.
Et puis là, c'est étonnamment, c'est étonnamment érotique parce que moi, ça m'évoque aussi le mythe de Léda, hein, avec la tête du serpent qui est presque comme une tête d'oiseau, et puis la relation amoureuse de ce personnage, mais qui est insérée dans ce
contexte.
Triptyque, on peut dire, avec Mato. La déesse et puis Salambeau et puis l'autre et puis alors il y a ce que tu as montré en dernier les couvertures dans l'édition de Gisèle Sessanger avec l'archéologie et puis entre deux et toutes les autres c'est la femme amoureuse qui est au centre avec dans les dernières couvertures que tu as montré des couvertures proches de la BD avec comme tu disais la guerrière et amoureuse ou bien le roman photo mais qui mettent Salambeau comme l'amoureuse amoureuse de Mato et donc le serpent passe alors que ce mythe du serpent est très fort dans le roman donc on a vraiment l'impression que la réception des années 90 et 1920 était beaucoup plus dans la logique de Flaubert que plus on va vers l'édition populaire et le livre de poche plus on a une femme Vous aurez les oui. stéréotypes de la femme.
Oui, bien sûr, parce que c'est le public est différent, voilà. le public cultivé. Voilà.
Cette, et qui psychologise la relation oui. Qui fait de Salammbô une femme amoureuse, femme orientale, femme occidentale, suivant le... C'est intéressant de voir, je pense à vous, Benna, de voir la représentation dans l'édition arabe de la femme occidentale, alors que pour beaucoup, il y a les clichés de la femme orientale dans Salammbô. Alors ça, c'est le vis-à-vis est curieux. Mais j'ai trouvé particulièrement pour Salammbô le contraste d'interprétation est flagrant.
Eh oui, hein. Oui, parce que c'est parce que le personnage fait rêver aussi, c'est-à-dire que cette nature instable, un peu hystérique, oui. non on la retrouve, cet élan mystique.
Voilà, c'est l'histoire.
On se retrouve dans un certain sens, c'est-à-dire qu'elle se prête, et si l'éditeur veut miser sur un achat des jeunes, ou un achat de certains types d'achats, alors il mise sur cet aspect universel qui n'a plus rien de mythique. Hein.
Et dans les couvertures du roman archéologique, c'est intéressant de voir qu'il y avait Garnier et Garnier Flammarion qui indiquent avec un dossier, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un public plus érudit qui est visé. Et je suppose que ton intention, Gisèle, c'était de déplacer, de montrer que c'était un roman archéologique,
Mais c'est toi qui l'as choisi ?
Alors, probablement pas toi qui as choisi.
Oui, ce n'est pas moi qui ai choisi la couverture, mais en tout cas, j'étais tout à fait satisfaite de ce choix-là.
Oui, c'est ça. Oui. C'est un peu comme la couverture du Roland Barthes par Roland Barthes, qui a été, en 75, c'était un dessin de Roland Barthes qui illustrait... l'autoportrait pour signifier l'écriture et non pas la biographie. Et pendant tout un temps, les rééditions du Roland Barthes ont été avec le portrait de Roland Barthes. Et c'est Eric Marty qui, tout récemment, a indiqué au Seuil qu'il fallait revenir à une image de dessin et non pas. C'est pas une autobiographie au sens. Traditionnel. Donc, il y a un impact
Tu disais
une synthèse du livre.
Synthèse du livre. Non, mais là, je pense que c'est une image qui donne la possibilité de remplir. Hein. À mon avis, hein, et c'est pour un lecteur avisé, un lecteur déjà préparé, parce que sinon un lecteur normal ne pense à rien en voyant ça. Mais c'est, on voit le site et on imagine, hein, on met les personnages, on pense aux personnages qui ont vécu dans ces lieux. Et je trouve aussi très intéressante l'image de l'édition poche, l'édition éditée par Neuf, parce que là, ce sont très peu les images que font penser à la monstruosité, hein, de l'atmosphère, du personnage. Et là, c'est Bacchante qui sont dévoués au dieu.
Bien sûr.
Et c'est ça. Je trouve que. Parce que l'image doit donner toujours quelque chose de un peu flou. Hein, c'est-à-dire.
Et le titre du tableau, enfin, ou le titre de l'illustration est intéressant aussi comme le dialogue avec avec le roman, comme tu le dis, la Bacchante. Et puis, on peut remarquer que là, elle est à nouveau avec le serpent. Et non pas avec le marteau.
Je me suis demandé s'il s'agissait d'un serpent. Je pense que c'est un voile. Hein.
Il fait penser à ça. L'intéressant, c'est l'ambiguïté.
Oui, c'est l'ambiguïté, bien sûr.
On peut y voir un voile et on peut y voir... On peut y voir une peau de serpent.
Oui, bien sûr.
Ça permet, en tout cas, c'est ouvert, ça permet au lecteur de projeter son rêve sur la couverture, ce que ne permettent pas certaines couvertures qui, évidemment.
Et oui, par exemple, à la fin, ces couvertures-là.
Le feu de
Hein?
La flamme de Moloch.
Ah, la flamme.
Oui, oui.
Dieu me brûle. Oui. Ah oui, bien sûr, oui, oui.
Celle-là,
oh, je ne l'ai pas étudiée. C'est une édition. En plus, cette édition-là porte, vous voyez, sur le titre, auteur de Madame Bovary. Hein, c'est comme une espèce de.
Oui, oui.
Mais l'intéressant, je trouve que c'est très intéressante cette
elle est très riche
de. Oui, et c'est le même éditeur, celui qui a créé, qui a décidé de faire la couverture. Ce sont deux illustrateurs différents, mais il mise sur l'aspect, disons, érotique, bien sûr, mais ici, il y a d'autres éléments. Hein, d'autres éléments de, c'est comme une couverture qui fait penser à d'autres choses. Ce qui m'a plu, le gang, hein, qui est comme une sorte du temps qui, hein, qui s'arrête, donc qui commence, qui s'arrête. Le gang a sonné.
Et dans les images de Madame Bovary, j'avais remarqué le tableau de Renoir qui. Alors.
Non, ah
non,
oui.
C'est avant. Voilà, oui. Voilà. Celui-ci, c'est un des seuls à. Donc c'est la loge.
C'est la loge.
Là encore, le titre est.
Ah oui, c'est la. Ah oui.
Voilà, parce que c'est un des seuls à illustrer un aspect particulier, parce que tous les autres, on a une jeune femme pensive ou pas.
Ah,
il y a celle-ci au balcon, mais bon, c'est la seule qui évoque l'épisode de la.
De
l'épisode de Rouen, du théâtre de,
oui,
Rouen,
de théâtre Rouen,
avec un personnage à côté qui, bon, oui, qui peut représenter un des hommes du,
oui,
du roman.
Mais aussi la dame au gant. Il y en a plusieurs qui évoquent des moments. Hein, des moments, c'est la caractéristique de certains.
Là, voilà, le gant, oui, c'est pas le gant vert, mais c'est,
oui,
le gant dans le vert.
Oui. Et là, c'est la. Durand, la dame au gant, et encore il y a cette œuvre de Manet, hein? Ah oui, cette œuvre là, Berthe Barisot au bouquet de violettes, hein? On le voit pas, mais enfin dans le quelques éditeurs, c'est un détail, mais quelques éditeurs choisissent l'œuvre complète. Et il y a aussi des tableaux de Berthe Morisot, hein, qui illustre, alors, Berthe Morisot qui illustre ce qu'elle représente. Et là aussi, je trouve, par exemple, si je devais choisir, si j'ai dû faire un choix, j'aurais choisi le portrait de femme de celui-là, le deuxième, parce qu'il me semble que c'est une ouverture, une porte sur le roman. Quand
lequel?
Le portrait de femme, le deuxième, celui-là. Parce qu'il me semble que c'est une porte. C'est-à-dire l'entrée de la vie de Emma quand elle était très jeune. Et il y a aussi des éléments qui. Le cœur rebattu. Il me semble qu'il.
Qu'il est un des plus ouverts dans la.
Oui, c'est-à-dire c'est le commencement de la vie d'Emma. Mais certains éditeurs misent sur d'autres. Bien sûr, sur d'autres.
Mais on sait en fait que le refus de Flaubert de toute illustration, ah, c'était le refus de limiter en fait,
ah oui,
la signification du texte par une représentation qui figeait la.
Il y a la fameuse lettre qui dit,
oui, oui,
c'est là, une femme dessinée, c'est une femme dessinée, une femme écrite, voilà, c'est une, voilà, femme qui fait rêver. Je ne suis pas tellement d'accord, et je pense que c'était plutôt sa crainte de de voir son œuvre interprétée, parce que lui aussi, il s'est inspiré des tableaux. Alors,
oui, mais
c'est différent, hein, c'est différent, bien sûr.
Pouvoir de rêverie, de rêve.
Mais bien sûr, mais pas
un manque qui n'est, oui. Qui n'est qui est le contraire de la spécification par une représentation illustrée. Oui. Mais c'est sûr que dans les couvertures, il y en a de plus suggestives. Oui.
Il y a, par exemple, je n'ai pas traité dans mon exposition, et elle est très difficile parce que il y a la possibilité aujourd'hui avec les books de créer, le lecteur peut créer soi-même la couverture. Alors là, c'est un rapport direct, il faudrait voir.
C'est une ouverture à ton...
Ah oui, mais impossible à faire parce qu'il faudrait... Et par exemple, les couvertures des books... mise sur une certaine corporalité de l'image parce que le livre est tellement dématérialisé qu'il mise sur cet aspect. Non.
Et tu as vu dans ton corpus, est-ce que tu as dans ton corpus, il y a eu un manga japonais qui est d'ailleurs au centre Flaubert, j'avais acheté au Japon.
Ah oui, l'autre.
Qui est une représentation d'une petite fille. Petite jeune femme,
un peu
nunuche, avec des petites fanfreluches.
Mais c'est de la bande dessinée de Garashi.
Je ne sais plus le titre, mais c'est une bande dessinée dans ton corpus. Alors là, c'est encore autre chose.
Non, je ne l'ai pas mise parce que c'est ça déplace. Mais c'était très intéressant. C'est une vision d'une jeune femme. Japonais qui voit les Occidentaux, c'est toujours ça. C'est l'auteur de Candy Candy. Et l'image de Emma Bovary est la même avec ses boucles. Et puis il y a la magnifique interprétation de l'autre côté de bande dessinée de Drouillet. Et la Salambo de Sénu. Hein. Là, on se trouve dans un autre contexte. Mais je n'ai pas traité
ça. Non, mais bien sûr, c'est déjà très, très, un très beau panorama. Y a-t-il d'autres interventions? Non. Alors, écoute, on va s'arrêter, on va te remercier beaucoup, on va s'arrêter, 10 minutes. On reprend à -20 pour l'exposé de Gesine Hildebrandt. Merci beaucoup.